La télé buissonnière, un média documentaire et participatif en Ariège.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de la télé buissonnière, donc pour cette rentrée 2017, en ce bel automne, en ce bel été indien. On a le plaisir d'accueillir le personnage du film qui va vous être présenté. Bonjour Florence.
Bonjour.
Bonjour. Avant de prendre le temps de te découvrir un petit peu, puis surtout d'écouter le film que la télé a réalisé, un petit point donc sur la télé. Donc la télé buissonnière, c'est un média participatif, une web télé, donc une télé qu'on écoute sur son écran d'ordinateur via le site télébuissonnière.org. Dessus, il y a des courts-métrages, des portraits, des séries qui sont filmées sur le territoire ariégeois par 5 réalisatrices. Et cet automne, nous avons deux actualités très, très chaudes en ce moment. Une première qui est une actualité urbaine puisqu'on est en tournage à Pamiers, dans le quartier de Loumette. Je ne sais pas si tu connais, Florence, le quartier de Loumette.
Non.
Alors souvent, à Pamiers, les gens connaissent le Foulon, la Gloriette. Loumette, c'est un quartier qui a la forme d'un ballon de rugby et qui se situe entre le cœur de ville de Pamiers et le Foulon. Et c'est un quartier donc, dans lequel on va poser nos caméras pour réaliser des films dans le cadre de ce qu'on appelle radioscopie d'un quartier par ses habitants. Et avant de poser nos caméras, on fait du porte-à-porte. Donc là, en tout mois de septembre, on frappe...
Des rencontres.
Exactement. On frappe aux portes des Apaméens et puis on les rencontre. On discute un petit peu avec eux sur le rapport qu'ils ont à leur quartier, à leur territoire. Et à l'issue de ce porte-à-porte, va émerger des films. Alors, on a déjà quelques pistes, hein, on a déjà quelques idées, quelques personnages. Et donc, les films seront réalisés normalement courant automne et puis projetés en décembre, si tout va bien, si on fait bien notre travail. Voilà. Deuxième projet, alors là, on quitte Pamiers. C'est un deuxième projet qui est dans le Kérigut.
Waouh, c'est loin.
C'est très loin. On a calculé.
C'est presque l'Aude. Hein.
Ouais, c'est la frontière en fait. C'est une langue ariégeoise en terre audoise. Hein. Je sais pas, tu connais, tu
as déjà... Oui, je connais. J'y suis déjà allée pour des raisons autres que professionnelles, on va dire, et plus politiques. Mais pour moi, c'est presque plus l'Ariège déjà. Puis même là-bas, ils se sentent plutôt dans l'Aude que dans l'Ariège. Ils vont faire leurs courses de l'autre côté. Ils descendent pas. Sur Axe.
C'est à 1h30 de tout, en fait, le Kérigut. Alors, écoute.
Mais c'est très beau.
C'est magnifique. Et donc, l'idée, c'est de s'installer, non pas une journée, vu le trajet et la distance, on va s'installer bien plus longtemps sur deux sessions, en fait, avec le bus culturel. Donc, Colline, Chloé et Elsa vont s'installer là-bas pendant deux jours d'abord, et puis ensuite une semaine. Et réaliser des films avec les habitants, avec les enfants, dans l'idée de faire un petit peu une radioscopie d'un quartier par ses habitants.
Il y a des créateurs là-haut.
Ce ne sera pas un quartier, ce sera un village avec des créateurs.
Il y a des créateurs, il y a une dame qui fait des chapeaux, il y a une dame qui fait des duvets en plumes d'oie et des doudounes.
Peut-être,
il y a une peintre. Enfin bon, il y a des personnages là-haut.
Elles vont peut-être les rencontrer pendant leur...
Vous avez des chances parce que c'est quand même pas très grand.
Non, mais l'idée, c'est de partir à la rencontre de ce territoire et puis de faire émerger, comme la radioscopie, en fait, de faire émerger des films. On a hâte de les découvrir. Pareil, ils seront tout chauds, tout frais, mis en ligne, normalement, à la fin de l'automne. Je vous propose, et je te propose, Florence, d'écouter le film que nous avons réalisé ensemble, qui s'appelle « Les Chocs ».
Que tu as réalisé, Marie.
Avec ton soutien amical. et puis peut-être, après cette écoute radiophonique, prendre le temps de poursuivre la projection avec une réflexion et une discussion sur ton métier.
Peut-être dire juste avant qu'une échoppe, en fait, c'est pas un endroit où on trouve des légumes, mais par définition, c'est un endroit où on trouve un écrivain public.
Waouh, bon. Joli programme, on écoute ça tout de suite et on reprend la parole juste après.
Ting ! Merci ma chère. J'ai besoin d'une photocopie pour ça, s'il te plaît. Mais toi, t'as une carte d'identité ?
Non, ça, c'est ma belle-mère.
Oh, J'ai besoin pour un autre truc. C'est pour mon mari, ça. C'est pas pour moi.
Je comprenais plus rien. Je sais quoi, ce bordel. On fait une demande de naturalisation. Elle a une carte de séjour. Et maintenant, elle a une carte d'identité. Là, tu sais, j'ai eu un grand moment de solitude. J'ai bugué, là, sur ton histoire. Non,
ça, c'est une autre affaire. C'est pas le même truc.
Putain, moi, je vais écrire un livre. C'est sur vos sagas familiales. Sans rien. Peut-être ça me rapportera un peu
surtout,
de sous.
Surtout, parce qu'après ce qui se passe ici, là, tout le monde ferme dernièrement, tout le monde ferme. Ne ferme jamais, ma chérie, parce que si tu fermes toi, ça serait la catastrophe ici à Tarascon. Hein.
Bon, ok. Ouais. Ça, c'est pour ta sœur. Tu vas la voir ou
oui.
On va le voir passer.
Si tu veux que je lui donne,
ouais,
je lui donne.
Tu lui donnes comme ça, ça lui évitera. Si jamais je ne sais pas, moi, après ce que je fais, okay. Si jamais je ne suis pas là ou quoi, attends, je dois voir un petit machin là. Puis comme ça, en même temps, tu peux y jeter un petit coup d'œil. Parce qu'en fait, c'est quand tu fais la naturalisation par décret, il y a un entretien d'assimilation.
D'accord.
Tu vois, mais bon, après, tu peux regarder, c'est intéressant. Okay. Il y a même des trucs, je suis sûre que je ne sais pas là-dedans.
Faut que je le fais, parce que
bah
c'est
oui,
toujours
non, puis
pareil.
Attends, faut que tu le fais après. Ouais. Tu fais comment autrement? Si un jour, tu te sépares ou quoi, tu retournes au pays? Au moins, là, tu es libre de faire ce que tu veux. On ne sait jamais, tu sais, la vie...
Non, mais moi, je suis amoureuse, je ne me séparerai jamais. Moi, je suis bien avec lui, là, donc il n'y a pas de souci. Allez, merci, ma chérie.
Allez. Toutes les demandes sont atypiques. Il y a des gens qui viennent classiquement, on va dire, pour des petits mots, pour des anniversaires, enfin des petites phrases qu'ils vont mettre sur une carte postale et qui demandent à ce qu'on l'écrive. Donc là, bon, oui, on est un petit peu plus, mais après, tout dépend des gens qui poussent la porte de la boutique. De 7 à 77 ans, je dis ça parce que j'ai eu une fois une petite fille qui devait avoir une dizaine d'années qui rentrait et qui me disait, je ne sais pas quoi écrire à ma maman pour la fête des mères, on m'a dit que vous étiez écrivain. Alors elle a choisi une carte postale, elle avait son petit billet, alors elle a choisi une carte postale et je l'ai aidée à écrire le petit mot à sa maman. C'était trop mignon.
Non mais pas écrit là, tu le mets pas, c'est tout. On fera une autre carte écrivain si tu veux, mais pas tout sur la même, ça fait étalage à la con. Voilà.
Artiste ou juste
peintre? Ah non, peintre, c'est tout.
Mais ça fait peintre en bâtiment.
Oh non, pas artiste, non, peintre, voilà, c'est tout.
Peintre.
Et le téléphone. Alors, des lettres blanches, bâton, simple, et je pense les majuscules normales, et puis le reste en bas de casse, quoi. Tout le reste en minuscule, si tu veux, voilà.
Donc, Pierre, ça reste peintre, et je mets ton tel.
Tu mets quoi?
Ton téléphone.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Peut-être mon mail aussi, tant qu'à faire.
Ton tel, ton mail, et la ville, même sans mettre l'adresse.
Ou 09400.
Bah non, on met Tarascon sur Ariège, ce sera joli.
Ouais, si tu veux. Ouais.
Ah oui, quand même la ville.
Un minimum, oui, d'accord. Quoi. Oui, d'accord, ok. Ça marche.
Que, je veux dire, après, quelqu'un se dise, il est où ce monsieur?
Oui, si tu veux.
C'est quand même con qu'il t'appelle.
Ça va pas se bousculer comme... Il y a toujours plein d'espoir. Je trouve ça génial.
Moi, j'aurais mis... Moi, je me serais pas. J'aurais mis écrivain, peintre, musicien.
Non, 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 mais non, ça fait. Ça va, quoi.
Voilà. Bah moi, peintre, bon. Ça me va pas. Peintre, ça fait peintre en bâtiment. Les mecs, ils vont t'appeler pour repeindre leur cuisine.
Ouais, mais
quoi.
Écrivain, ça fait trop. Ça fait. Texte au pluriel, peinture. Non, ça va pas.
Pour trouver un autre mot qu'écrivain.
Bah ouais, non, écrivain.
Auteur.
Ah, auteur, voilà. Auteur.
Auteur, c'est pas la même chose parce que auteur, ça peut être.
Ça veut rien dire du tout, c'est parfait. Auteur, peintre.
Non, peintre d'abord.
Peintre et auteur.
Peintre et auteur. Souvent, les difficultés avec l'écrivain, avec les difficultés pécuniaires, enfin financières, hein, ce sont souvent des gens qui mais n'ont pas été à l'école très longtemps, viennent de pays étrangers. Et donc, du coup, ben, ils ont besoin, des fois, pour des choses très très basiques. De nos services, ça va être pour faire par exemple une lettre de réclamation à la CAF ou à leur opérateur téléphonique, mais ça peut aussi être pour l'aide à remplir un dossier. Et puis il y a ceux qui ont, on va dire, un niveau d'apprentissage à l'école qui est quand même correct, mais ça peut pas parfois aller plus loin. Et effectivement, tous ces gens qui mettent en place parfois des stratégies pour qu'on pense qu'ils sont comme tout le monde. Donc, qui vont être capables de se mettre à une terrasse de café avec un journal peut-être capable de décrypter, on va le dire comme ça, des gros titres, et puis en écoutant ce qui se dit à droite à gauche, en fait, d'avoir une conversation comme s'ils avaient lu l'article, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas lu. C'est naturalisation. Donc ça s'appelle en fait par décret. C'est pas par mariage.
Ouais.
Tiens, comme ça, tu mets tout dedans.
C'est les mêmes.
C'est exactement. T'as plus qu'à remplir. En fait, alors attends, on va aller voir la liste des pièces. Alors, pour la naturalisation par décret, qu'est-ce qu'il demande ? Être en situation régulière sur le territoire français, ça c'est bon, t'as ton titre de séjour. Avoir une résidence régulière, ça tu l'as. Être assimilé à la communauté française en ayant une connaissance suffisante de la langue, t'as passé le soin, c'est bon. Ouais. Le document diplôme ou attestation.
Oui.
Donc ça c'est bon.
Demande contrat de travail, de fiche
voilà,
de paie.
Voilà, et là en fait tu vas avoir, alors être inséré professionnellement. T'as des bulletins de salaire ?
Oui, j'ai toujours, ça fait...
Alors, rajoute dans des documents que tu vas apporter.
J'ai le contrat et les bulletins de salaire.
Tu le prends ?
Je prends tout depuis que je suis en France.
Tu prends ton contrat de travail et tu prends ton dernier bulletin de salaire. Hein. Voilà, être de bonne... T'as pas été condamné, t'as pas été arrêté... Trois imprimés de demande d'acquisition de la nationalité, tu vois, sur celui-là.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ça. En fait, c'est là qu'il en faut trois. Tu sais, quand tu me parlais le jour qu'il en fallait plusieurs, et je t'ai dit, c'est pas marqué, mais en fait, si, sur cela, il en faut trois. Donc, en fait, il faut que tu le remplis, tu fais trois photocopies et tu les signes. Les photocopies, le justificatif, machin, le niveau de langue... En fait, comme ça, tu vas y aller avec les deux dossiers.
Les deux.
Et si jamais il n'est pas là, la dame, tu lui expliques que tu vas entamer une procédure de divorce et que du coup, tu es venu avec les papiers pour la naturalisation par décret pour voir ce que tu peux faire. Et si tu tombes sur quelqu'un qui est un peu à l'écoute, si tu veux, elle va te redonner un rendez-vous et pareil, elle prendra le dossier en compte si tu as tous les documents.
Ouais.
Du coup, elle le transformera en demande par naturalisation, par décret ou par mariage, et ça peut marcher. Hein. De toute façon, tu as le rendez-vous tant que tu tentes ta chance. Et il y a ce truc-là, c'est le livret de la citoyenneté. Alors, c'est parce que quand tu passes par décret, lors du rendez-vous, en fait, ils te font un petit truc là-dessus, quoi.
Voilà.
C'est un petit questionnaire.
Voilà.
Par contre, quand tu fais par mariage, ils font pas. Parce que comme tu es marié, tu es censé tout savoir. Ouais. Quand tu n'es pas marié, tu sais rien.
Ça
voilà.
Change,
voilà.
Il faut connaître.
Ça s'appelle la liberté de la femme en France. C'est que la femme, toute seule, elle est inculte. Tout le monde le sait. Bon, allez, courage.
Allez.
C'est quand même quelque chose que je fais depuis l'âge de 18 ou 20 ans dans des associations. Enfin, pour moi, c'était pas. Je suis pas arrivée, tac, je fais écrivain public, c'est une grande découverte. J'étais parolière pour des musiciens, j'ai écrit, je fais le nègre pour des auteurs, j'ai écrit aussi quelques livres, et puis j'ai toujours travaillé dans des assos pour aider les gens qui avaient de la difficulté, j'étais bouquiniste, tout ça c'était du parallèle par rapport à mon activité professionnelle officielle dans de l'associatif. Donc le fait de m'installer comme écrivain public, déjà je savais où j'allais quelque part, j'avais déjà pleine conscience de ce qu'était le métier, c'était pas, donc je peux pas dire que c'était nouveau. Je savais déjà qu'il me fallait une échoppe, par exemple. Je savais déjà que l'installation hors échoppe n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment avoir pignon sur rue pour cette partie sociale, pour que les gens puissent pousser une porte. Sur toute ma petite carrière, parce que bon, ça commence quand même pas d'écrivain public, j'ai rédigé une fois une lettre d'amour. J'ai eu une fois cette demande d'un monsieur qui est rentré en me disant « Voilà, je souhaiterais épouser une dame et je voudrais lui faire une lettre d'amour pour la demander en mariage. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et ça a été un moment très dense parce que il fallait bien sûr pas rédiger une lettre d'amour comme moi j'aurais pu la rédiger parce que la personne en face aurait compris que ce n'était pas son prétendant. Donc il a fallu passer un bon moment avec la personne, aller boire un café, discuter, voir un petit peu comment elle était, comment elle s'exprimait. Et puis après, ça a été l'épreuve de la dictée, C'est-à-dire, j'ai fait faire une dictée à la personne pour voir quelles étaient les fautes d'orthographe qu'elle pouvait faire. Et en particulier, des fautes récurrentes. On a tous, dans notre orthographe, des lacunes. Et on a des fautes qu'on peut faire qui sont récurrentes. Et pour derrière, arriver à faire une lettre qui soit ce qu'il avait envie de dire. Donc, il me l'avait dit, bien sûr, il s'en était exprimé. Le dire avec ses mots et avec ses fautes. Pour que la lettre soit vraiment complètement la personne. Et c'était un exercice pas simple. J'ai fait aussi des lettres pour une maman à sa fille. Une maman qui souhaitait renouer les liens avec son enfant. Elle ne trouvait pas les mots, en fait, parce qu'elle était trop dans l'émotion de cette séparation avec son enfant. Et du coup, elle était presque dans l'agressivité par moment. Et elle voulait lui dire « je t'aime ». Et en fait, elle lui disait « tu me fais chier ». Enfin, j'exagère, mais c'était un peu ça. Et du coup, il fallait retrouver les bons mots pour vraiment transcrire ce qu'elle avait au fond d'elle. J'écris pour les autres. Je crois que mon activité, elle se résume juste à ça. J'écris pour les autres. Et dans le « j'écris pour les autres », il y a tout. Il y a l'écriture, il y a le « pour » et il y a les autres.
C'était l'échoppe, court-métrage dans ton échoppe, Florence, qui se situe où exactement?
Alors l'échoppe se situe en bas de la rue du Barry, à Tarascon-sur-Ariège. Mm-hmm. Tout simplement, au pied de la vieille ville et au cœur de la ville.
Depuis quand tu as ouvert cette échoppe?
Alors j'ai ouvert cette échoppe en septembre, j'ai un doute, entre 2011 et 2012. Mm-hmm. En 2011.
Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir un lieu? Parce que tu aurais pu faire ça depuis, tu aurais pu être écrivain public depuis chez toi.
Alors je l'étais. Je l'étais sur les Hautes-Pyrénées, je l'étais à la maison. J'étais donc chargée de communication et écrivain public, conseiller en com, pour être moderne. Et quand je suis venue m'installer en Ariège, j'ai décidé qu'il me fallait absolument un lieu parce que je ne trouvais pas de structure, même dans les Hautes-Pyrénées, pour m'accueillir, pour faire des permanences. Et je me disais qu'il fallait vraiment un lieu où les gens puissent venir lorsqu'ils avaient besoin, librement. Un pied-à-terre où ils puissent, en toute confidentialité, venir demander ce dont ils avaient besoin. La démarche est très dure pour les gens de venir voir un écrivain public. Donc, passer une porte, c'est difficile. Mais téléphoner et prendre un rendez-vous, ça relève parfois pour certains du domaine de l'impossible. Mmh. Alors que là, on arrive à avoir des gens qui poussent spontanément la porte et au bout de quelques années, ils la poussent de plus en plus. Cet après-midi et ce matin, j'ai eu 3 personnes que je n'avais jamais vues. Voilà, petit à petit, il y a des gens qui viennent chercher de l'aide.
Alors moi, j'étais très étonnée quand j'ai posé ma caméra dans ton échoppe de voir la porte ouverte en permanence avec un passage hallucinant. J'imagine que ça n'a pas été comme ça dès le début, que c'est une confiance aussi qu'il a fallu gagner au fur et à mesure.
Ça l'a été un peu au début parce qu'au début, il y a eu des curieux. Donc pas vraiment des gens qui venaient chercher de l'aide, mais plutôt des gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passait dans cette petite échoppe. Et puis après, il y a eu un creux. Mais on sait que quand on installe ce genre de choses, il faut compter vraiment 3 bonnes années, on va dire, avant d'avoir ces gens qui osent et le bouche à oreille qui se fait. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai aussi fait le choix de monter cette maison d'édition indépendante en 2012 pour avoir un autre axe de travail. Et pouvoir, au travers de ça, faire connaître mon métier. En fait, c'est presque un support. L'édition, c'est pas une fin en soi, c'est pas de l'édition commerciale. Et c'est vraiment un support pour faire connaître le conseil littéraire, tout ce qu'on peut proposer en tant qu'écrivain public.
Alors, dans le film, c'est vrai qu'on voit une partie de ton travail et de ton activité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Alors, il y a 2 choses. Il y a la naturalisation qui prend pas mal de place dans le film parce que c'était le moment où j'étais là, où on s'est rencontrés. Déjà, juste dis-moi, où est-ce qu'elles en sont, ces deux femmes ?
Alors, on est toujours bloqués. On est toujours bloqués avec une demande de rendez-vous qu'on n'arrive pas à obtenir. Qu'on avait eu, il leur manquait un papier. Du coup, là, elles n'arrivent pas à obtenir. Ça fait un mois que matin, midi et soir, je suis sur le site de la préfecture de la Haute-Garonne pour essayer de décrocher un rendez-vous. J'y arrive pas.
Donc là, j'ai encore envoyé un mail de plus et je pense qu'après, ben, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ça va être une lettre à la préfète de l'Ariège, ça va être une lettre au président de la République, peut-être, je ne sais pas, mais à un moment, je trouve que c'est indécent de laisser des gens dans ce genre de situation pendant des mois, sous prétexte certainement d'un manque de personnel dans les préfectures. Mais quelque part, on a l'impression qu'on ne veut pas les naturaliser, ces gens-là. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange profondément. Et donc, comme je suis une femme de combat, je veux que ces dames que tu as vues dans ma boutique arrivent un jour avec leur carte d'identité, nationale d'identité dans ma boutique.
Comment elles feraient si tu n'étais pas là? Comment elles se débrouilleraient pour accéder à cette demande?
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors peut-être des assistantes sociales qui font ce genre de choses. Il y a peut-être des associations, je ne sais pas quoi. Bon, là, l'avantage, c'est qu'elles travaillent à côté, que la boutique est ouverte. Et du coup, voilà, elles y sont rentrées. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai vu pas mal de cas comme ça. Quoi. Ouais. Parce que de partout, les services sociaux sont débordés. Donc les assistantes sociales n'ont plus le temps de faire certaines démarches. Et puis on envoie les gens très facilement. Là, c'est de la prise de rendez-vous sur Internet. Donc des gens qui ne maîtrisent pas le numérique, comment font-ils ?
Tu parles d'Internet, moi c'est ce qui m'a frappé aussi en restant avec toi ces quelques après-midi, c'est l'aspect social et relationnel de ton échoppe et de ton métier, où les gens viennent pour demander conseil, pour créer des cartes de visite. Alors tu évoques aussi beaucoup de choses de l'ordre de l'intime qui n'ont pas été filmées, qui ne sont pas dans le film. Est-ce que tu peux évoquer un petit peu l'évolution de ton activité entre le moment où tu as ouvert ton échoppe, ce que tu vis aujourd'hui dans ta boutique, et peut-être comment tu vois que les choses se dessinent dans les mois, les années à venir par rapport aux demandes des gens?
Après, je pense que les choses se continuent, on va dire. Il n'y a pas vraiment... Bon, il y a forcément plus de monde qui pousse la porte qu'au départ quand on ne me connaissait pas. Après, il y a cette maison d'édition, mais qui commence à prendre beaucoup trop de place à mon goût. Parce qu'accompagner des auteurs, c'est aussi une vocation, quelque chose que j'aime beaucoup, défendre les droits des auteurs. Mais à un moment, les gens n'ont pas forcément la reconnaissance en face. Et puis, on est dans un monde qui tourne autour de l'argent. Et quand on fait des choses un peu noblement et avec son cœur, malheureusement, en face, on se trouve souvent confronté à un monde de requins et de gens qui veulent mettre en pièces... le processus est le même, quel que soit on pourrait prendre les petits éleveurs qui se font bouffer par les gros, les petits éditeurs qui se font bouffer par les gros, etc. etc. Donc on est dans... Et bon, moi j'ai une passion qui est l'écriture quand même, et j'ai aussi une passion pour les plumes anciennes, les encriers anciens, les vieux pupitres, dont j'ai une collection phénoménale. Et je rêve quand même, depuis mon arrivée en Ariège, d'avoir un jour un lieu pour poser tous ces objets. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de démarches dans ce sens, pour proposer des petits musées de l'écriture d'antan à droite, à gauche. Que bon, apparemment, ça n'intéresse personne. Ça ne doit pas non plus être assez porteur financièrement. Donc, j'ai ça, j'ai le côté poésie. Je suis très fan de poésie, on va le dire comme ça.
Ouais, j'ai assisté à une très belle après-midi ensoleillée à Tarascon.
Voilà. Et il y a aussi de ce côté-là d'autres projets. Donc, il va peut-être y avoir à un moment des choses qui vont se recentrer, qui vont bouger, qui vont évoluer. Voilà, parce qu'à un moment, faire de l'édition indépendante, c'est bien, mais à un moment aussi, aller vers autre chose peut-être, ouvrir d'autres portes. J'aime pas m'arrêter à une porte, en fait, il faut toujours que j'en pousse des plus loin. Et là, c'est vrai que je travaille actuellement sur des ouvrages à thématique forte, ouvrages sur les migrants, ouvrages sur l'adoption, ouvrages sur femmes battues, des choses comme ça, ouvrages sur l'éducation différente. Et c'est vrai que petit à petit, je tends à m'orienter vers ce genre de choses et dans mon travail de conseiller littéraire. Mmh. Voilà. L'édition étant un deuxième temps où d'autres écrivains publics qui travaillent par exemple sur des récits de vie viennent se faire, entre guillemets, éditer chez moi sous une collection qui leur appartient. Mmh. Donc il y a plusieurs axes en fait, et je pense qu'à un moment, quand on est tout seul à travailler, même si à côté il y a quand même l'association avec d'autres écrivains publics et des gens qui œuvrent un peu dans l'ombre sur certains domaines, oui, puis j'ai plus 30 ans quoi. J'ai plus 30 ans, j'ai envie d'avoir aussi un peu de temps pour moi. Tous les combats que je mène, qu'ils soient au quotidien, politique, littéraire, enfin bon, ça n'arrête jamais. Et à un moment, je me dis que moi aussi, j'ai des choses à dire et j'ai peut-être aussi un livre à écrire. Mmh.
Ou deux, ou trois.
Peu importe. Mais voilà, donc il y a plein de petites choses qui s'annoncent. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne lâcherai pas cette partie de sociale, on va dire, du métier, qui est à mon sens très importante. Et j'ai formé des gens qui, en mon absence, aujourd'hui, sont capables d'être installés dans les shops et de recevoir des gens pour la même chose. Et je vais continuer à les former pour ça.
Alors, il y a quelque chose, un pan de ton activité, un pan plus nocturne et littéraire, qui n'est pas dans le film, parce que dans ce film, c'est aussi un petit peu ton échoppe qui est le personnage principal, finalement, cet espace de rencontre.
C'est mon échoppe. C'est mon échoppe et les gens qui viennent.
Qui la rencontrent, ouais. qui poussent la porte. Oui. Je pensais aux soirées scribes auxquelles j'ai assisté.
Ah, oui.
Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots de ces soirées scribes, en quoi elles consistent?
Alors, les soirées du scribe, en fait, c'est des soirées où je vais à la rencontre de gens qui ne connaissent pas bien souvent le métier, et je vais leur présenter, en fait, l'histoire du métier d'écrivain public, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il pourrait être, et à travers ça, les faire un petit peu voyager sur quelque chose qu'ils pensent souvent avoir disparu. Quand on leur parle d'écrivain public, ah bon, ça existe encore? Et donc, c'est très drôle, en fait, de ces rencontres, de voir les gens tout d'un coup se dire « mais oui », et puis de s'y intéresser. Et puis, en fait, au bout d'un moment, c'est eux qui posent des questions. On est sur de la rencontre autour de la thématique, toujours de l'écriture et de la communication. Et ça crée des liens. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ces soirées, justement, dans des lieux comme là où je les fais actuellement, qui sont les thermes du SAT, en Aulac-les-Bains, où les gens viennent en cure. Et voilà, ça leur fait une animation supplémentaire avec une découverte, et c'est accessible à tous, donc ça me permet des fois d'avoir même des gens qui apprennent que, de par le handicap ou la raison pour laquelle ils sont en cure, des choses qu'ils peuvent plus faire, ils pourraient les faire grâce à la main d'un écrivain public. Donc il y a vraiment un côté très très humain dans ces soirées et très chaleureux. Donc des fois, il y a des lectures, des présentations d'auteurs avec Isabelle Lopez, qui animera d'ailleurs la prochaine soirée du scribe vendredi soir à USA Tournolac, parce que je ne serai pas là. Donc il anime elle aussi à sa façon, en présentant plutôt elle le métier de la naissance d'un auteur et d'un livre autour d'une thématique pour enfants. Donc c'est surtout des échanges.
De très beaux échanges. J'invite les auditeurs à venir y participer. Puis c'est un lieu de partage d'expériences. Et moi, j'ai senti dans ces soirées auxquelles j'ai participé que les gens venaient aussi chercher des outils pour eux-mêmes, pourquoi pas, oui, devenir écrivain public à leur tour. Donc ça peut créer des vocations.
Aussi.
Aussi.
Aussi. Et puis, il y a les kiosques poésie auxquels tu as eu la chance d'assister, qui sont donc sous toutes ces thématiques sur la poésie que j'aimerais pouvoir développer un petit peu plus, avec certainement un salon de la poésie Pyrénées dans les 1 ou 2 ans à venir, on va dire ça comme ça. Et puis, les Festiscribes, le prochain, c'est le 14 et 15 octobre, où là, on tourne complètement autour de l'écriture, et où d'ailleurs, le reportage de la TV Buissonnière.
Documentaire, Florence, documentaire.
Ah, j'aime bien le mot reportage. Bon, alors le documentaire, on ne va pas contrarier Marie, mais j'aime bien dire reportage parce que pour moi, dans ce que tu fais, il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication et de l'investigation. Alors que souvent, on fait des teasers qui ressemblent plus à des outils de com. Et là, il y a. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu comme celui qui va. Là, tu vas à Pamiers, mais si tu allais en Afrique faire un reportage dans une tribu, ce serait la même chose. C'est pour ça que documentaire, reportage, je ne sais pas trop où est la frontière. Il va falloir que je regarde dans un dictionnaire.
on va vous laisser là. Florence, merci beaucoup pour ce temps, pour le film, pour ce temps maintenant que nous venons de
donc
passer.
Donc rendez-vous
ensemble
dans mon échoppe, ou le 14 et 15 octobre à Banat.
Absolument.
À la salle polyvalente, pour le Festiscribe.
Merci Florence.
Merci Marie.
À bientôt.